Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Elle en Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayennaise. J'espère que votre été se passe bien, que vous passez un bon mois d'août. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rencontre, une nouvelle discussion avec Charline, la créatrice de Chat Cuisine, un service traiteur 100% vegan. Vous allez donc découvrir Charline, une femme dynamique qui défend ses valeurs avec conviction dans son travail et aussi dans sa vie, car comme elle le dit très bien, elle est Chat Cuisine. Nous avons discuté entre autres de son travail, de son mode de consommation vegan, de sa reconversion et de plein d'autres choses. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charline.
Bonjour.
Bienvenue au micro d'Elle en Mayenne. Merci de m'accueillir chez toi et puis dans ton beau restaurant pour ce nouvel épisode. Pour débuter les épisodes, souvent je demande aux personnes de se présenter en quelques mots avant qu'on commence notre grande conversation.
Ça marche. Alors donc bah, moi c'est Charline Galpin, donc gérante de Chat Cuisine. J'ai 35 ans, mais gérante de Chat Cuisine, mais c'était pas du tout ma formation à la base. Donc mais je suis heureuse d'être à la tête de Chat Cuisine depuis 2018.
D'accord, ce que j'allais te demander, 2018. Donc maintenant ça voilà. Commence. T'es bien, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant tu commences à être rodée.
Oui.
Tu connais à fond tous les rouages. Très bien. Lorsqu'on discutait avant cet épisode, on a discuté un petit peu par téléphone. Tu me disais que ça te tenait à cœur pendant notre discussion d'échanger un petit peu sur ton parcours, sur ce qui t'a amené jusqu'ici. Est-ce que tu veux nous expliquer ? Tu démarres du point de départ que tu souhaites.
Ok, ça marche. Alors à la toute base, j'ai fait pas mal d'études. En fait, j'ai fait 6 ans d'études après le bac. J'ai fait un DEUG en art plastique. Oui, ça existait les DEUG à l'époque. Une licence pro métier du livre et un master en sciences de l'éducation. Donc à la base, tout ce qui me destinait à être prof et ou bibliothécaire. Ouais. Et j'ai fait les deux.
Dans la culture, le littéraire, tout
ça. Et l'enseignement, voilà. Donc j'ai fait 3 ans bibliothécaire titulaire, 3 ans professeur, enseignant documentaliste.
D'accord.
Et puis, finalement, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'était ce pourquoi j'avais pas de diplôme finalement. C'était la cuisine qui était une passion depuis mon enfance. Donc 3 revirements déjà professionnels. Donc le dernier, j'avais 28 ans.
D'accord. Et donc t'es originaire de la Mayenne.
Ouais.
Donc t'avais fait toutes tes études ici.
Alors j'ai toujours été en Mayenne. J'ai grandi au Bourgneuf-la-Forêt jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai commencé le doc d'art plastique et la première année en sciences de l'éducation à Rennes. Mais je rentrais absolument tous les week-ends. J'ai pas du tout fait ma vie là-bas. Enfin, c'était vraiment les copains mayennais, quoi. Donc je revenais vraiment tous les week-ends et les vacances. Et tout le reste de mes études, je les ai faites à distance en vivant à Laval parce que même Rennes, c'était une ville trop grande pour moi. J'aime okay. vraiment être ouvert, au calme, et puis le cadre de vie où, à peine 5 km et on est en pleine nature.
Ouais, c'est ça, c'est ce milieu-là dans lequel tu te retrouves et tu te ressources très bien.
Tout à fait.
Et donc, pendant tes études, est-ce que tu t'es rendu compte, ou même après, quand tu exerçais, est-ce qu'il y a des moments donnés, des déclics où tu te disais « non, je suis pas à ma place
» Alors déjà, j'ai fait le master en sciences de l'éducation avant la licence pro métier du livre. Et en fait, en faisant ces études-là, je me suis dit waouh. Enfin, en fait, si on veut vraiment bien faire les choses, le système éducatif français, ça marche pas du tout en fait. C'est-à-dire que c'était beau, tout ce qu'on disait, tout ce qu'on apprenait, c'était génial, mais il faut avoir des classes de 12 maxi quoi. Donc il y a eu une espèce un peu de déception, en me disant waouh. Donc je vais aller au bout quand même parce que c'est hyper intéressant et ça m'a appris plein de choses, notamment pour aussi faire du coaching sur les gens, de la psychologie, etc. Donc chouette. Mais finalement, je pense que ça correspond pas avec les conditions qu'on nous donne quoi. Donc à ce moment-là, je me suis un peu renseignée et ce qui m'intéressait aussi d'un point de vue un peu éducatif, c'était plus le côté culturel, apprendre avec la culture. Donc je suis allée plus vers le côté bibliothèque parce qu'il y avait aussi le côté mettre en place des animations dans les médiathèques, notamment la jeunesse. J'ai fait un de mes mémoires sur la littérature de jeunesse comme adjuvant à la lecture quoi. Donc du coup, je suis plus allée là-bas. Donc j'ai commencé comme taf bibliothécaire et j'ai adoré ce travail-là, mais honnêtement, c'était très très peu payé et par contre beaucoup d'heures. Et au bout d'un moment aussi, quand tu veux faire trop de choses, ce côté fonctionnaire territorial, on t'empêche un petit peu de... Enfin, on te dit en gros, de toute façon, les budgets sont tant, les horaires sont tant, vous pourrez pas travailler plus, donc en gros, mollo quoi. Et donc, quand t'as 27 ans et que t'entends mollo,
et toi t'as envie de bouger, de faire plein de choses.
Ouais, j'aimerais bien faire plus d'heures, faire plus de missions, plus d'autres choses et tout. Donc, j'avoue que ça a été un peu une frustration, mais ça a été très dur de quitter ce boulot parce que j'adorais ce que je faisais, mais j'aurais voulu pouvoir mettre plus de choses en place, donc j'ai quitté ça. Et prof, ça a plus été comment rebondir financièrement, parce que vu que j'avais un master, c'était un peu la facilité, pour ensuite essayer de trouver vraiment ma voie, en fait. Donc, qui était par rapport à la cuisine, que je pratiquais déjà à un rythme semi-professionnel, en plus de mon boulot pour des assos, pour des concerts, pour un studio d'enregistrement. Donc, c'était plus sous forme de... Les gens payaient les courses, en fait, et je cuisinais pour eux. Okay. Mais déjà, je me rendais compte que j'étais capable d'envoyer pour 80, 60, etc., sans problème, en plus de mon travail. Donc, il y a un moment, c'est la passion qui prend le dessus.
Et cette passion de la cuisine, elle t'est venue au fur et à mesure? C'est quelque chose que dès l'enfance tu appréciais?
Oui. Alors déjà, de base, j'aime manger. J'aime beaucoup manger.
C'est une bonne base.
Manger. Voilà. Donc du coup, manger des bonnes choses qui sont bien faites. Et c'est vrai que ma grand-mère... j'ai eu la chance jusqu'au collège de manger chez ma grand-mère midi et soir. Et du coup, c'est vrai que j'allais dans le jardin déjà chercher les... Je savais quelles plantes faisaient quoi. J'allais chercher les aromates, etc. Les légumes. Enfin, c'était... Donc c'est complètement elle qui m'a initiée. Et je me rappelle dès mes 3-4 ans à dire je veux mousse au chocolat un mercredi, elle m'a dit ok, tu vas la faire. Et en fait, j'ai tout appris avec elle, et du coup la passion était déjà là, et j'ai toujours été celle qui cuisine pour tout le monde, la famille, les événements, les amis. J'ai toujours, voilà, c'est toujours moi qui faisais venir les gens à ma table, déjà dans le privé, dans le particulier. Donc voilà.
Très bien. Et quand tu as eu ton choix de métier, tu t'es pas forcément dirigée vers la cuisine au début, est-ce que tu saurais l'expliquer? Est-ce que peut-être tu t'es dit je peux faire des grandes études, donc allons-y, ou...
Ouais, alors j'ai vraiment été très très éduquée dans le côté faut être la première en classe, faut faire au max, parce que, enfin, entre guillemets, la vie c'est dur, et il y a que si t'as des bonnes études que tu vas réussir à t'en sortir. Et aussi la restauration c'est hyper dur, c'est des horaires de fou, c'est voilà, enfin pour moi c'était un peu intouchable. Et je pense que la dimension aussi autour de mes 20 ans, où j'ai commencé à m'intéresser plutôt à la cuisine végétale, du coup, donc à transposer toutes mes recettes en cuisine végétale, là, j'y ai vu plus une mission de vie qu'avant, où c'était vraiment plus le côté... Enfin, je voyais vraiment pas ça comme une possibilité de travail, quoi. C'est vraiment vu avec le côté végétal, le fait de me dire, j'aime tellement faire ça, que j'ai envie de partager un peu... Je vais pas dire prêcher la bonne parole, mais un peu.
Très bien. Donc ça s'est fait en fait naturellement.
C'est ça.
L'activité de chaque cuisine. Donc après, tu as dit je quitte ma profession, enfin ton travail, et je me mets à temps plein pour chaque cuisine. Là aussi, il y a eu un petit déclic, ou ça s'est fait progressivement?
Alors, je suis du genre à assurer mes arrières quand même un petit peu. Donc du coup, j'ai créé le statut officiel en 2018, parce qu'à la base, j'ai une amie qui tenait la ruche qui dit oui à Louvernay. Parce qu'on se connaissait quand j'étais à la bibliothèque de Louvernay. Et elle savait comment je cuisinais, parce que j'avais toujours fait des petites choses, etc. Et qui m'avait dit, un jour, si tu fais tes produits et tout, ça me ferait plaisir que tu fasses partie, etc. Mais il te faut un statut, quoi. Donc j'ai dit, ok, pour l'édition du marché des... c'était le marché des producteurs, et j'ai dit je vais créer mon statut. Donc à la base c'était vraiment plus pour du très ponctuel, donc j'étais encore prof. Donc en 2018 j'ai créé le statut en me disant je vais pouvoir participer à ce genre de petits événements, des marchés, des choses comme ça, ou même des petites demandes ponctuelles, parce qu'en effet aussi le végétarisme, végétalisme c'est de plus en plus, donc du coup je l'ai créé un peu comme ça. Et en fait ça m'a complètement dépassée, c'est-à-dire que j'ai eu tellement de demandes que l'année scolaire 2018-2019 je travaillais, enfin je me faisais un salaire de prof, et j'avais quasiment autant de temps sur le traiteur.
Double temps plein.
Voilà. Donc du coup c'est vraiment septembre 2019 où là j'ai dit puis en plus il y a eu l'achat de la maison, où avec la possibilité, la mairie, l'urbanisme, etc., de créer le petit lieu professionnel ici. Donc c'est vraiment septembre 2019 où j'ai dit à l'éducation nationale je reprends pas de poste cette année. Mais du coup c'était déjà presque assuré, puisque j'avais fait une année déjà bien complète.
T'as pas eu trop de doutes ou de craintes en te lançant, en disant c'est déjà là?
Voilà, puis je m'étais dit, au pire des cas, de toute façon, je rappelle l'éducation nationale, mais en vrai, il n'y a jamais eu besoin.
Et est-ce que, quand tu t'es lancée, tu as dû te former? Est-ce que tu es vraiment autodidacte? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Parce que, après, je ne sais pas, il y a peut-être des formations, entre guillemets, obligatoires quand on ouvre une prestation de traiteur ou de restauration.
Alors, l'obligatoire, c'est vraiment tout ce qui va être hygiène et sanitaire. Donc ça, forcément, j'ai fait la formation par rapport à ça. Après, tout le reste, en termes de cuisine, non, t'es pas obligé. Et en théorie, pour vendre des pâtisseries seules, t'es obligé d'avoir un CAP pâtisserie. Sauf que, comme moi, il n'y avait pas d'œufs et de beurre et de produits, en fait, qui étaient avec des risques et contaminations croisées, on m'a dit officiellement, en fait, non, toi, t'as le droit. Donc, du coup, c'était chouette. Mais de base, j'ai quand même... la théorie pour toutes ces choses-là, parce que même en hygiène sanitaire, on apprend plein de choses avec des produits que moi, finalement, j'utilise pas. Voilà. Et après, par la suite, pour moi, m'éclater un peu plus, et puis pour diversifier aussi mon offre, j'ai fait une formation à distance en cuisine crue, végétale, et en tout ce qui est plantes médicinales et comestibles. Et puis, voilà, plus des petites choses comme ça. Et j'ai aussi une... Alors ça, ce sera pour l'avenir, si j'ai d'autres projets. Donc, j'ai fait la formation, mais j'ai rien mis en place, sur la semi-conserve, avec une gamme de semi-conserve chez cuisine. D'accord. Donc, tout est validé. Il faudrait plus que j'achète le matos et je pourrais m'y mettre, mais... C'est un projet pour l'avenir.
Le voilà. Planning est déjà bien chargé.
C'est ça.
Du coup, dès le début, tu as proposé des produits vegan. Est-ce que t'es aussi un mode de consommation que t'avais depuis longtemps ? Comment est-ce que, entre guillemets, tu es entrée dans ce mode de consommation-là ?
Ok, donc alors faut savoir que de base, je suis une très grosse viandarde. Hein. Quand j'étais petite, je mangeais vraiment, genre j'étais capable de manger plusieurs bavettes saignantes. Donc on part de loin, le saucisson, les œufs, le fromage, c'est vraiment mon gros kiff. Et bah en fait, à 20 ans, comme je disais, je cuisinais pour mes amis et j'ai eu pas mal d'amis, notamment dans le domaine dans le milieu musical, qui sont devenus véganes. Et moi, ce que je voulais surtout principalement, c'était que les gens, que tout le monde puisse manger à ma table. Donc je me suis dit, bah la version la plus inclusive, c'est de faire du vegan pour tout le monde. Et donc bah c'est là que ça m'est venu et en fait je me suis rendu compte même sur certaines analyses moi-même de santé et de consommer de plus en plus vegan, bah c'était plus positif. En parallèle, j'ai regardé aussi des documentaires, etc. Et en fait, je suis d'abord passée végétarienne, je devais avoir 20 ans. Et c'est ça, 20 ans. Et je suis passée végane qu'en 2015, donc il y a quand même eu, le fromage, ça a été dur à arrêter.
Est-ce que pour ceux qui ne font pas forcément la différence entre végane du coup et végétarien, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer
Ça marche. Donc végétarien, c'est qu'ils ne consomment pas de chair animale, donc c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, parce que le poisson est aussi un animal. Je le dis parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Quand on est végétarien, on ne mange pas de poisson, sinon on est pesco-végétarien, voilà. Et donc végétalien, donc là où j'en suis aujourd'hui depuis 2015, c'est aucun produit issu des animaux. Mmh. C'est-à-dire que même le miel, le lait, le beurre, toutes ces choses-là, c'est sorti de l'alimentation. D'accord. Voilà. Donc c'est ça la différence entre vegan et végétarien.
D'accord. Donc dans une démarche, tu disais, tu t'es renseignée, je suppose que tu as dû aussi discuter voilà, avec d'autres personnes qui étaient végétariennes et puis tu as regardé des reportages, tout ça. Est-ce que c'est dans une démarche par rapport au bien-être animal ? Je reformule aussi ma question. En fait, je trouve que quand j'étais jeune, les personnes que je connaissais végétariennes avaient cette volonté vraiment de bien-être animal. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a aussi l'aspect écologique qui est de plus en plus montré. Est-ce que toi, c'était vraiment les deux associés ? Est-ce que tu t'es rendu compte aussi de l'impact écologique qu'on pouvait avoir avec la consommation, effectivement, de viande, de poisson, etc. Est-ce que... Dans quel point tu t'es retrouvée?
Alors, c'est vrai que, déjà, pour passer végétarien et ou vegan, en fait, il y a, comme tu dis, tous ces axes-là, et il y a aussi l'axe santé. On voit de plus en plus qu'il y a des choses qui sont hyper positives côté santé, et notamment pour les sportifs, notamment celui qui a gagné Roland-Garros cette année, il est quand même assez vieux, il est vegan, donc voilà. Bref, mais donc, ouais, non, moi, la toute base, c'est vraiment le bien-être animal. En fait, alors, c'est vraiment le truc tout con, on va dire, ça peut être naïf, mais bon, mine de rien, ça a vraiment été l'entrée du truc, c'est que moi, j'ai un chat, donc, qui a 15 aujourd'hui que j'adore quoi, j'ai pas d'enfant mais c'est ce qu'il y a de plus près pour moi, c'est ce chat là qui est vraiment un compagnon de vie, et je me dis, enfin moi je l'aime tellement, on lui ferait du mal, enfin je serais folle quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre ce chat, une poule, un chien, enfin n'importe quelle, une vache, etc. Et en fait ça a été le premier truc vraiment, donc puis j'étais déjà de base contre le foie gras parce que je voyais le côté souffrance plus la fourrure, ces choses-là, donc en fait ça allait dans une sorte de logique, mais j'avais besoin de cette espèce d'étincelle-là pour faire le lien que même n'importe quelle viande, bah c'était de la souffrance, donc vraiment ça a été le premier point. Et à ce moment-là j'étais même, bon un peu bête, hein, mais je disais bon, l'écologie je m'en fiche, enfin l'humain il se met dans la galère, c'est lui qui l'a cherché. Et à la fois en fait quand je vois que ça impacte aussi les animaux, le côté écologique, bah forcément c'est venu ensuite dans la démarche, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est vraiment aussi le cœur de chaque cuisine, j'ai envie de dire.
Parce qu'on est quand même dans un département assez rural, assez agricole. Tu disais que du coup, ta famille est originaire de la Mayenne. Comment ça a été accepté par ton entourage ? Comment est-ce que tu as pu l'expliquer ? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les personnes à qui tu en parles comprennent ta démarche ? Est-ce qu'ils te soutiennent ?
Ouais, alors à la toute base, donc mes grands-parents, quand elle est végétarienne, bah, ma grand-mère elle a dit ok, elle s'est adaptée, donc ça c'était chouette, elle avait toujours autre chose pour nous. Moi, mes parents, ils m'ont au début, ils étaient même hyper, comment dire, admiratifs, parce que bon, déjà, ouais, ma maman, c'est elle qui me disait quand j'étais petite, c'était pas, enfin voilà, enfin pour le foie gras à la fourrure, c'était elle déjà qui disait, elle était abonnée à un truc genre One Voice, je sais plus quoi, pour les animaux,
oui,
une nation.
Elle vous a un peu aussi éduqué dans voilà. Ce sens-là.
Mais c'était pas, enfin, genre, ça lui venait pas, elle parlait jamais de végétarisme, elle l'était pas, elle mangeait très peu de viande, et c'était bio, parce que par contre, c'était une des pionnières sur le bio à l'époque. Mais du coup, c'est vrai que il y avait pas de volonté de végétarisme à la maison, on n'en parlait pas. Et donc, quand je suis passée végétarienne, et quand j'avais même ne serait-ce que des copains véganes, on avait organisé à l'époque des événements véganes à Laval, dans un bar qui n'existe plus, le Queen's Bar, où je faisais déjà à manger, et les copains faisaient des concerts, une projection, enfin, il y avait déjà des choses. Et mes parents étaient là, ils disaient, ouais, bravo, enfin, tu sais, genre, ils admiraient.
Ils étaient épatés, ouais, de la démarche.
Mais pas jusqu'à le devenir eux, et au final, aujourd'hui, ils sont véganes, mes deux parents, d'accord. Et mon seul frère qui a 16 ans de moins que moi, qui a 19 ans, est végétarien. Le fromage, je peux pas arrêter, mais en tout cas pour l'instant. Mais au final, bah, j'ai eu un impact énorme sur mon entourage. Et même quand je suis devenue végane, bon, ma grand-mère m'a connue qu'un an végane, mais elle a fait des efforts. Au début, elle a dit « Ah, vous compliquez les choses !» mais en vrai, elle a fait quand même. Donc moi, j'ai vraiment une énorme chance d'avoir un entourage qui, au contraire, a décidé d'apprendre de ce que je pouvais apporter par rapport à ça. Et maintenant, mon père cuisine son tofu, son tempeh. Enfin, il est devenu même un ponte de la cuisine végétale. Bon, pas pour 200 personnes, pour 3 ou 4, mais voilà.
Mais c'est bien qu'ils ont été... Enfin, c'est une belle démarche, que tu aies pu les sensibiliser, qu'ils aient pu accepter ça aussi. Mmh. Et puis, au final, être dans le même mode de consommation que toi, c'est quelque chose qui est chouette.
Mmh. Et mon conjoint est devenu végane aussi. Végétarien, quand on s'est rencontrés, déjà de base, il avait l'envie d'être végétarien.
D'accord.
Donc je lui ai montré 2-3 documentaires, je lui ai montré quelques trucs en cuisine, et après en fait par la logique des choses il est devenu vegan. Déjà c'est assez facile parce que je cuisine pas mal, on va dire.
Mais forcément,
voilà, mais c'est lui qui a fait beaucoup de recherches. D'accord. Et comme lui il est dans la santé, il y avait aussi cette volonté de chercher un petit peu plus loin de ce côté là et maintenant il est même on va dire que c'est un très grand sportif, et il est même fier de montrer qu'on peut être sportif mais assez haut niveau et d'être vegan. Il veut montrer que c'est possible et justement montrer que ça peut être même encore, enfin, avoir des meilleurs résultats, quoi.
Donc, oui, voilà. D'accord. Lui, est-ce que tu penses que aujourd'hui dans notre société, c'est, je pense, maintenant un mode de consommation qui est totalement accepté. Enfin, après, tu me dis
oui.
si tu penses que ça ne l'est pas. Mais je te suis, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vois que tu partages beaucoup d'informations à ce sujet-là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose pour lequel il faut militer encore aujourd'hui, ou c'est une démarche qui, maintenant, est naturelle? Et est-ce que tu penses, par exemple, qu'il y aura de plus en plus de véganes ou de végétariens?
Alors, je pense que c'est une question géographique un peu, parce que quand on va dans n'importe quel autre pays, c'est hyper facile, les options véganes partout dans les restaurants, en Espagne, dans tous les pays anglophones, en Allemagne, c'est carrément, c'est encore plus développé. Et je trouve qu'en France, on a vraiment un cran de retard, beaucoup dessus, et il y en a qui vont dire, des restaurateurs, ah ouais, je fais vegan, alors on paye le même prix, ils enlèvent tout dans le plat, donc puis ils nous mettent 3 légumes, enfin moi je suis désolée, j'ai faim, quoi. Donc non, je trouve qu'il y a un énorme travail à faire, notamment du côté des restaurateurs traditionnels. Ça avance, et on trouve aussi de plus en plus de produits dans les grandes surfaces, les magasins bio, etc. Donc ça peut, c'est plus faisable, mais je dirais pas que c'est facile vegan en France aujourd'hui. Et il y a quand même ce côté, et encore très français, qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a ce côté dans la tête de certains, on nous catalogue tous les véganes comme des terroristes, ou on a encore cette idée que vegan, tu vas manger que des graines et de l'herbe. Et je trouve qu'en France, on est quand même vraiment, vraiment à la bourre avec ça.
Ouais.
Donc, pour moi, il faut vraiment montrer que, un, ça peut être généreux, ça peut être délicieux, qu'on peut être, qu'on est vegan mais qu'on est parachitique, qu'on peut faire du sport, qu'on peut faire plein de choses. Et surtout que ça a un impact écologique énorme, donc on a presque envie de dire, je dis on parce qu'on en parle souvent avec mon conjoint, que c'est presque, bientôt ce sera même pas un choix, ce sera une obligation, puisque quand on voit l'eau, la terre, enfin tout ce que ça consomme d'élever des animaux, enfin, donc voilà, c'est ouais, faut expliquer en fait, il faudrait pas que ça tombe comme ça sur les gens, faut mieux si eux s'ouvrent à ça déjà à l'avance, qu'ils goûtent, qu'ils testent, qu'ils voient que c'est possible, qu'ils dédramatisent, et que du coup qu'ils commencent déjà à se dire, peut-être manger un peu moins de viande par semaine, ce sera déjà ça de gagner en fait.
Donc, oui, puis toi en tant que traiteur, tu as ce rôle effectivement de pouvoir proposer des nouvelles choses, montrer effectivement que qu'on peut manger autre chose que de la viande, et puis comme on disait tout à l'heure aussi sensibiliser effectivement à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui sont un peu dans cette démarche-là de j'hésite, je sais pas trop comment faire, où me renseigner, comment passer le cap?
Ouais, alors déjà, on a beaucoup, enfin maintenant avec les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de personnes qui font des contenus vraiment de qualité. Et bah, mine de rien, on va dire sur les Français les plus solides, je trouve que quelques livres de Marie Laforêt vont permettre des bonnes bases. Elle explique vraiment tout au début au niveau du matériel dont on a besoin et on se rend compte que c'est des choses qu'on a déjà souvent. Elle va vraiment prendre le temps d'expliquer pas mal de données, même au niveau nutrition, etc. Donc ces bouquins sont bien parce qu'à la fois il y a les recettes, mais il y a aussi toute l'approche du matériel qu'il faut, des aliments qu'il faut, etc. Donc je pense que avoir un ou deux livres de Marie Laforêt, c'est pas mal pour commencer. Et puis juste un truc tout bête, mais marquer par exemple une recette qu'on est habitué de faire et la taper dans Google en mettant vegan au bout et de voir déjà que visuellement on a des choses qui ressemblent. Et puis bah après voilà, on teste. Mais surtout bah, quand on va dans un restaurant bizarrement et qu'on voit une option vegan, pourquoi pas, même si on l'est pas, se dire tiens je vais tester si c'est vraiment une option, si c'est marqué sur la carte option vegan, bah, ça peut être voilà.
C'est du vrai,
tenter.
Pas juste on enlève.
Voilà. De toute façon si c'est marqué sur la carte, c'est qu'en général ils en sont assez fiers. Donc ça peut aller, donc voilà, au moins tenter, si j'ai envie de dire tenter, même dans un supermarché au moment de faire les courses, voir le rayon végétal et voir j'en sais rien moi un fromage ou un simili carné, donc simili carné qui remplace la viande et qui ressemble, bah tenter juste pour voir parce que ça se cuisine un peu pareil. Bon là c'est un peu le côté industriel, mais ça peut être une approche, je pense que ça peut être une première approche qui peut déjà dédramatiser.
Et après apprendre à cuisiner soi-même.
Oui, les ateliers de cuisine, il y en a plein, il y a des vidéos en live, il y a plein de choses.
Ouais. Et sur, tu disais que tu avais regardé des reportages, pareil, que tu avais pu montrer à ton entourage. Est-ce que tu as des noms comme ça de reportages, documentaires qui toi, t'ont parlé, qui t'ont fait un petit peu écho par rapport voilà, au bien-être animal et puis ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à l'écologie
Donc il y a Cospiracy et Cispiracy qu'on peut retrouver sur, donc Co comme vache et Si comme la mère, donc Cospiracy, Cispiracy qu'on retrouve sur Netflix. Et après j'en ai vu vraiment beaucoup, donc c'est pas évident, mais je trouve que de façon générale il y a le média indépendant Vaquita qui est sorti il y a pas longtemps et ça permet vraiment aussi d'avoir plein d'informations. Il y a des formats assez courts, donc ça c'est plutôt pas mal. Et de façon générale suivre les infos de L214 aussi, parce que c'est quand même ceux qui sont le plus à la page et c'est les donneurs, comment on dit ?
Donneur d'alerte.
Voilà, c'est ça.
Je sais pas si c'est le bon mot.
Non, mais ça, on dit quoi ? Sonneur, donneur d'alerte ?
Je sais plus. Il y a mot alerte dedans.
Ceux qui sonnent la cloche pour dire il faut faire quelque chose, voilà. Mais en tout cas, ne serait-ce que suivre pour s'informer. Déjà, ce type de médias indépendants ou d'associations indépendantes, ça permet d'avoir des données. Et voilà, parce que bah, même dans le GIEC, c'est quand même marqué diminuer la viande. Je dis pas que tout le monde doit devenir vegan.
Oui, mais c'est ça, sans être forcément dans se dire voilà, comme tu dis qu'il faut que tout le monde soit dans cette démarche-là, mais d'être informé, ça permet aussi de prendre conscience.
Mais je me permets de rebondir parce que tu disais tout à l'heure, on est dans un département agricole, etc. Et du coup, bah, c'est vrai, j'ai envie de dire, justement, je n'ai pas envie de critiquer non plus donc, ceux qui font les choses bien, parce qu'il y en a qui le font. Enfin, c'est très rare les cochons en plein air, mais il y en a quelques-uns quand même, par exemple en Mayenne, des choses comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est pas de forcer les gens à tous devenir vegan, mais c'est plutôt se dire, bon bah voilà, on est dans un département où on a tous des produits qui sont un petit peu plus faciles d'accès, donc peut-être déjà se dire, bah on en mange moins souvent, mais au moins on va vraiment direct au producteur et sur. On sait que c'est des animaux ont été nourris de façon clean aussi, parce qu'il ne faut pas oublier tout. La déforestation en Amazonie à cause de plantations de soja, ce n'est pas pour l'alimentation des végans, mais c'est pour l'alimentation des bêtes, et notamment en Europe. Donc, savoir aussi quand on mange de la viande, qu'en plus on participe à la déforestation en Amazonie, ça crée un petit peu. Donc peut-être déjà aussi que les gens s'informent sur avec quoi sont nourris les animaux qui vont consommer. Et voilà, donc peut-être faire un effort sur moins, mais une meilleure qualité. Plus local et donc peut-être plus cher, mais au moins avec vraiment un sens qui sera aussi plus écologique, moins de transport, etc. Donc j'invite déjà à ce premier pas là.
Oui, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, chaque cuisine c'est effectivement de la cuisine végétarienne, végane, Mais il y a aussi toute la démarche, comme tu dis, écologique derrière et toutes les valeurs que tu prônes dans, voilà, dans ce que tu peux nous donner à manger.
Oui.
Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un petit peu effectivement, le concept global de chaque cuisine ?
Ça marche. Donc, du coup, ma cuisine est très intuitive. On ne va pas forcément retrouver régulièrement toujours les mêmes plats. Ça change totalement presque d'une semaine sur l'autre et en fonction de chaque projet. Parce que déjà de base, donc, je me suis mis un petit peu des défis. Donc 100% de mes fruits et légumes frais sont des produits mayennais. Donc au niveau du... Donc les légumes, les fruits, c'est mayennais. C'est raisonné ou bio mais sans pesticides et direct producteur. Donc déjà, celui qui va me demander un fraisier en février, bah c'est non. Voilà, donc ça c'est, déjà c'est la base. Ensuite le reste j'essaye de faire au maximum français, donc forcément mon soja est bio et français, mon riz et toutes les céréales et légumineuses c'est français et bio. Et pour ce qui vient de plus loin, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi utiliser quand même par exemple la noix de coco, les noix de cajou, des choses comme ça, c'est bio et équitable. Et tant que possible, enfin voilà, le côté équitable, parce que ben, on sait que les noix de cajou ça peut poser problème. Moi je sais que celles que j'achète, ce ne sont pas les femmes qui épluchent et donc qui se font mal aux mains, comme on a pu voir dans certains reportages. C'est mécanique. Donc voilà, en fait l'idée c'est que tous les produits que j'utilise, je sais d'où ça vient, comment c'est fait, et surtout que ça ait le moindre impact négatif, aussi bien sur la nature que sur les humains aussi quand même. Donc voilà. Et en fonction de ça, du coup, je crée et puis les produits... Des fois, on va retrouver la même recette toute l'année, mais les produits dedans vont changer. Par exemple, le couscous de légumes de saison, en hiver et en été, on ne va pas avoir les mêmes légumes dedans.
Très bien.
Voilà.
Et donc, tu proposes un service traiteur. Donc, les gens peuvent venir chercher ici. Je sais que tu as aussi quelques places de restaurants. Il y a aussi des soirées que tu organises ou c'est des soirées privées, ou c'est des soirées que toi, tu organises. Est-ce que tu veux, là aussi, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Alors, pour ceux qui seraient intéressés par ta cuisine.
Voilà.
Qui...
Alors, justement, on ne va pas dire que c'est compliqué parce que c'est plutôt adaptable. C'est-à-dire que je ne suis pas une structure classique avec des horaires, avec des jours d'ouverture, etc. Je suis une personne avec 4 ou 5 casquettes, donc je m'adapte totalement. Et donc le plus gros de chaque cuisine, c'est les repas que je vais livrer pour du catering à artistes, événementiels, assos ou autres. Donc il y a beaucoup de moments aussi où je suis en déplacement, en livraison, etc. Et sur des gros événements, donc même les mariages, anniversaires, etc. Après, il y a les formules à emporter. Donc les formules à emporter, c'est pareil, je demande à réserver au moins 24 heures à l'avance parce que je n'ai jamais de stock. Ça aussi, c'est un engagement, c'est que je ne veux pas qu'il y ait de perte ou de gaspillage. Donc je ne cuisine que ce qui est réservé. Tant pis si je perds des potentiels clients. C'est vraiment l'éthique avant tout. Et donc ça, moi, j'ai un site internet et puis tous les réseaux, je suis hyper active dessus et je réponds très vite et très facilement. Donc on peut retrouver facilement s'il y a des menus disponibles ou sinon une prise de contact. Et moi, je dis aux gens, là, je travaille pour tant de personnes sur un autre événement, ils ont ce menu là, je peux vous faire ça si ça vous va. Donc voilà. Et en effet, il y a la salle. Donc la salle, c'est sur soit une privatisation, donc si par exemple vous voulez faire votre anniversaire ou autre chose, un repas, c'est à partir de 6 personnes et jusqu'à 15. Donc pareil, il faut qu'on se mette d'accord sur la date parce qu'encore une fois, mon agenda c'est compliqué. De temps en temps, j'organise aussi des soirées sur place. La semaine dernière, on avait un concert tapas sur place, c'était vraiment super sympa, guitare, voix, piano avec plein de tapas sur la table. Voilà, et pareil, si vous avez des projets, n'hésitez pas à prendre contact. Des fois, il y a des thérapeutes qui viennent faire un petit... on appelle ça un peu les brunchs bien-être, où il y a d'abord une petite activité, ça peut être sophro ou autre, et puis après, on a un repas sur la thématique. Donc en fait, voilà, l'idée, c'est prendre contact avec moi et tous les projets, dès lors où ils correspondent à mon éthique et que j'ai le temps dans l'emploi du temps, bingo, on y va, quoi.
Trop bien, génial. Donc on peut te retrouver, si tu disais, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, je mettrai tous les liens dans le podcast. Moi je suis assez quand même impressionnée par la démarche éthique qui est vraiment, je trouve, très globale. On parlait tout à l'heure de bien-être animal, d'écologie, mais on sent aussi le fait que ce soit des produits locaux, des produits bio... qui a un bon impact aussi sur le bien-être humain, sur la planète, on va dire, dans sa globalité. Est-ce que quand tu t'es lancée, tout de suite, tu t'es dit « je veux faire tout ça », est-ce que ça a été une démarche petit à petit ? Et j'imagine que tu as dû aussi rencontrer pas mal de difficultés et de contraintes.
Ouais, alors complètement, en fait, dans le sens où ça a été hyper évolutif. Au début, c'était vraiment plus, moi, ce que je veux faire, c'est du vegan, mais j'étais même pas forcément dans du bio ou quoi. En fait, comme je le dis souvent, déjà, chaque cuisine, c'est un peu un projet qui m'a rattrapée plutôt que je l'ai créé, puisque finalement, la demande était là, donc j'ai répondu. Et en fait, c'est en voyant le type de clientèle que j'avais, les questions qu'on posait. Alors, direct, en plus, je sais pas, au début, c'était juste traiteur vegan ou végétal. Sur ma porte, c'est marqué traiteur végétal. Et dans la tête des gens, boum, c'était bio. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, c'est un peu, ouais, c'est la demande et les gens qui s'intéressaient à chaque cuisine qui un peu ont fait ce que j'ai développé. Parce qu'au tout début, je me rappelle en 2018, j'avais des boîtes en plastique. Bon, je me disais, les gens pouvaient les réutiliser. C'était pas non plus les trucs traiteurs avec un film dessus. Ouais. Là, c'était des sortes de tupperware. Mais n'empêche que ça, je me suis dit, mince, c'est un petit peu embêtant aussi. Donc, je suis passée sur les compostables qui étaient déjà mieux. Et maintenant, je demande aux gens, dans la mesure du possible, d'apporter leur contenant. Et surtout sur les gros événements traiteurs, je prête mes plats. Donc ça aussi, c'est particulier. Je prête mes plats en inox et je demande aux gens, par contre, je les prête, donc je les loue pas. Donc je leur demande pas d'argent en supplément. Par contre, je leur demande de les ramener propres. Mmh. Et en fait, je trouve que ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas toujours aux commerçants ou à l'artisan de faire les efforts pour l'écologie, mais que c'est une responsabilité de tous. Donc quand on dit aux clients ou même à la structure, même si c'est la mairie, peu importe, je vais leur dire, mes contenants, faut me les rendre propres, ça engage la responsabilité de tout le monde. Éco-responsable, oui, mais on a tous un rôle à jouer. Donc et j'essaye toujours d'améliorer au maximum, mais c'est toutes ces problématiques-là qui me rattrapent, en fait, et qui... Oui. J'ai envie de faire au mieux toujours, donc je ne me mets pas de limite. On verra ce que je peux faire toujours en plus, mais c'est l'objectif.
Très bien, c'est une belle démarche, je pense que tu peux être fier de toi. Et on me disait tout à l'heure, au niveau des contraintes, est-ce que tu as des exemples de choses que tu as voulu mettre en place et pour lesquelles ça a été un peu difficile, après, quel que soit le sujet. Par exemple, sur ton approvisionnement, on a les fruits et légumes à côté de nous, c'est pour ça que je les montre du doigt, mais vous voyez pas. Pour ton approvisionnement, que ce soit en produits mayennais, etc., est-ce que c'est plus compliqué, tu penses, que si tu travaillais avec des grossistes?
Oui, je pense que de toute façon, c'est forcément beaucoup plus de temps, d'organisation. Et puis, il y a ce côté aussi où des fois, les producteurs ne savent pas exactement combien ils vont avoir de tel ou tel produit. Mmh. Donc, c'est aussi la capacité, mais je vois ça plus comme un challenge positif de s'adapter. Et genre, j'ai pas assez de ce légume-là, par quoi je peux le remplacer? Mais c'est vrai que quand je vois ceux qui passent leurs commandes sur des grosses structures et qui vont tout chercher au même endroit, je me dis, oui, en effet, c'est plus simple. Ils n'ont pas à se soucier non plus de la saisonnalité, etc. Et moi, ce qui est le plus dur, c'est quand justement il va y avoir des mariages ou des événements qui sont à un an plus tard ou des choses comme ça et que les gens veulent valider leur menu et que j'ai envie de dire c'est sous réserve qu'il y ait ce produit là donc je leur dis dans ces cas là on peut faire ci ou ça, remplacer par tel ou tel produit ou sinon au pire des cas, j'irai plutôt acheter chez Biocom, mais je fais attention dans tous les cas que ce soit en magasin bio, que ce soit français et bio, mais voilà, c'est le maximum de ce que je me permets comme marge d'erreur ou vraiment ça m'arrive comme là on m'a demandé un produit dans 15 jours, un dessert poire chocolat, là il n'y a pas de poire, donc du coup je leur ai proposé une alternative et je pense aussi que les clients que j'attire sont des gens qui vont aussi qui vont trouver logique ce que je leur dis et qui vont pas non plus
qui sont assez ouverts d'esprit, qui vont pas se fermer effectivement si tu leur proposes des alternatives et qui se rendent bien compte que effectivement comme tu disais tout à l'heure si on demande un dessert avec des fraises
en février
c'est pas possible.
Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je me dis, puis si jamais les gens se braquent et que ça leur convient pas, ils vont voir ailleurs, parce que moi j'essaye vraiment de faire je veux être droite dans mes baskets dans mon projet, donc c'est moi, c'est mon image et c'est ce que je représente
et c'est tout à ton honneur, je trouve.
Voilà, donc j'essaye au maximum, mais c'est vrai que c'est du challenge et mine de rien la charge mentale est quand même assez dingue, donc le nombre de nuits où je dors pas parce que justement je me dis là j'ai 4 ou 5 événements différents, donc ma vaisselle est par là, est-ce que je vais avoir assez de plats, sinon où est-ce que je peux en acheter rapidement, parce que j'essaye aussi d'acheter beaucoup de choses d'occasion pour éviter aussi le neuf, etc. Donc il y a quand même, faut aimer faire des listes.
C'est une organisation.
oui, charge mentale plus, mais c'est un challenge.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des points sur chaque cuisine qu'on n'a pas forcément abordé, dont tu voulais parler aujourd'hui, ou même tout à l'heure on évoquait aussi ton parcours, des choses que tu voulais nous partager pendant cette discussion?
Eh ben, chaque cuisine, donc, bah, c'est mon entreprise, mais c'est moi, hein, concrètement. Donc, il y a aussi ce côté, bah, je vais dire aux gens ce que je pense, notamment de quand les choses sont disponibles ou pas, quand leurs projets sont faisables ou pas. Et puis, pareil, s'il y en a qui vont me poser des questions sur l'éthique, etc. Enfin, je suis vraiment du genre à dire ce que je pense. Donc, après, ça peut être particulier parce qu'on se dit, bah, quand tu tiens un commerce, etc., tu peux avoir un peu une certaine réserve et tout. Et non, j'avoue que je suis quand même assez cash. Mais sinon, ce que j'aime, c'est que ce que je disais aussi, c'est l'appel un petit peu à ce qu'on mixe avec les autres gens autour. Et je trouve que faire à manger, ça se lie avec énormément de domaines. Et j'adore créer des collaborations, du travail ensemble et essayer de me caler sur ce que les gens font pour proposer quelque chose en communion, enfin, qui va aller avec. Et justement, en fait, pour moi, chaque cuisine, pour l'instant, ça n'a pas de limite ou de frontière. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe un quatrième métier. Mais voilà, enfin, l'idée, c'est s'il y a des challenges, des propositions, etc., je suis toujours quand même preneuse et... Et voilà, enfin, j'aime bien toujours essayer d'aller plus loin et de lier avec plein d'autres choses. Ouais. Bah, comme là, c'est vrai qu'en ce moment, on voit, quand on suit un peu mes réseaux, qu'il y a un petit côté witchy qui se développe, mais c'est parce que c'est moi, c'est côté un peu herboriste, le soin, le développement personnel, etc. Donc, ça arrive dans mon feed Instagram ou quoi, mais c'est moi en fait. Donc oui. Chaque cuisine, c'est pas qu'une cuisine, c'est la personne qui va avec.
Tu te limites pas, enfin, si t'as envie de faire quelque chose. Tu fais en sorte que tu puisses y arriver. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure par rapport aux collaborations, tout ça. Depuis que tu t'es lancée, on le voit effectivement sur les réseaux ou autres. On avait essayé de faire une soirée ensemble.
Le Covid est passé par là.
Mais c'est vrai que t'avais aussi fait un petit coin dans ton restaurant pour qu'on puisse vendre un peu, qu'il y ait des créateurs mayennais qui puissent vendre aussi leurs produits. Je trouve que t'es toujours en perpétuel mouvement, en recherche de nouveaux projets. Ouais. C'est des choses qui t'animent aussi. Est-ce que tu penses qu'effectivement chaque cuisine va être amenée à évoluer tout au long de la vie?
Alors complètement. Donc déjà, il y a deux trucs qui me viennent en tête avec ta question, c'est pour te dire. Donc le premier, c'est que justement, je sais plus si c'était en 2021, je crois, je devais faire le Chat Cuisine Fest. Et c'était justement mélanger un peu plein de choses qui me tiennent à cœur. Il devait y avoir un stand Sea Shepherd, donc ça c'était hyper chouette. Je devais faire un repas. Et avec mon conjoint, on a écrit un livre pour enfants que j'ai fait les illustrations. Tous les deux, on a fait l'histoire et lui, il a fait les chansons qui vont avec. Et donc, il est là aussi, il est dans la boutique, on le voit. Qui est très très écologique, c'est un conte écologique et musical. Donc on voulait le performer. Donc il y avait vraiment ce côté-là qui était nous deux, plus moi qui fais les repas. Plus un ami qui venait compter, mais plutôt pour adultes. Enfin, vous voyez, il y avait le Chat Cuisine Fest qui était pareil. Il y avait quelqu'un d'autre qui devait venir vendre des produits aussi artisanaux qui étaient vegan. Enfin, il y avait tout un tas de trucs.
Tout un partage de...
Voilà. Et il y a eu les histoires de jauge, de passe sanitaire, etc. C'est tombé à un moment où c'était pour nous, c'est devenu un truc trop dur à gérer, sachant qu'on n'était pas forcément organisateur et que, d'événements en global et que c'est venu trop vite avant la date de notre événement, donc on a un peu tout laissé tomber. Mais ça, je me dis qu'un jour, j'aimerais bien réussir à mettre quelque chose comme ça en place qui prouve un peu tout ce que ça peut... Enfin, toutes les portes que ça peut ouvrir et tout ce que ça peut lier.
Et puis peut-être toucher aussi une autre population, une autre clientèle.
Voilà. Puis montrer des talents locaux aussi, parce que le compteur, donc c'était un compteur qui était à Angers, qui est devenu un ami, qui s'installe en Mayenne. Et moi, je l'ai découvert sur un événement que je faisais à manger. Je savais pas à quoi m'attendre à un compteur... Enfin, entre guillemets, adulte, quoi. Je me suis pris une baffe. Hein. J'ai trouvé ça génial. Depuis, j'achète tous ces livres. Et je me dis, j'aimerais que les gens découvrent qu'en fait, en tant qu'adulte, on peut se faire conter des histoires et que c'est vraiment magique. Donc, c'est vrai que j'aimerais aussi montrer cet univers-là aux gens. Donc, essayer de mettre un peu les talents locaux, encore une fois, sous lumière. Donc, je me dis, un jour, j'aimerais bien réussir à faire ça. Donc, on va falloir trouver du temps, etc. Mais j'aimerais bien. Et plus tard, mais là, vraiment, dans l'avenir à venir, je pense que j'aimerais calmer un tout petit peu le rythme, parce que là, c'est vrai que j'ai une vie, je pense que c'est beaucoup
trop... À 100 à l'heure.
Ouais. Enfin, vraiment, même cette année, j'ai fait un petit burn-out quand même en mars. Donc, on a beau aimer ce qu'on fait, il y a un moment, le corps, le mental demande un petit peu de calmer. Donc, c'est vrai que je me dis, là, tant que j'ai encore la patate, etc., donner un max, mais je vois déjà comment je peux, dans l'avenir, changer un petit peu les choses, d'où la formation semi-conserve. Comme ça, les gens pourront quand même acheter ce que je fais et les avoir chez eux, mais peut-être, aller plus en campagne, plus sur un lieu lieu où les gens viendraient à moi, mais plus pour des, voilà, pour des événements plutôt ponctuels, bah, comme les brunchs bien-être, quelque chose comme ça, vu que je suis vraiment à fond dans le côté herboristerie, plantes médicinales et comestibles, peut-être faire des choses autour de ça, des ateliers, des activités. Et voilà, garder le côté traiteur événementiel, mais plus être au centre de Laval comme, comme là. Donc ça, bon, c'est peut-être dans un projet dans 5 ou 10 ans, hein, mais n'empêche que c'est dans ma tête et c'est une autre façon de faire évoluer chaque cuisine avec ses semi-conserves.
Très bien.
Dans des bocaux, pareil, le côté écologique, c'est pas trop mal. Ouais.
Voilà. Oui, et puis de, même pour toi, de dire, bon, je vais pouvoir aussi poser un petit peu chaque cuisine et avoir cette perspective, pardon, d'évolution, peut-être que aussi mentalement ça fait du bien de se dire je vais pas courir toute ma vie après le temps.
Ah, c'est ce que je me dis, j'ai 35 ans et quand je vois déjà, déjà mes biceps ont triplé
je confirme
mes biceps sont triplés de volume, donc je me dis bon bah là ça va, je suis, et aussi bah, depuis que je suis devenue vegan je suis vraiment en meilleure santé physique. Avant j'étais tout le temps bloquée, enfin j'avais plein de problèmes, je tombais tout le temps malade, et là vraiment j'ai une énergie qui me permet de faire des choses que j'aurais pas cru. Mais bon, j'ai encore que 35 ans, donc je ne garantis pas non plus que ça tire. Voilà, donc j'aime bien aussi me dire bah, que je puisse continuer à faire tout ce que j'aime, mais avec un rythme qui est plus adaptable avec l'âge qui arrive aussi, quoi.
D'accord, trop bien. Bon, en tout cas, c'est un bel avenir qui
se dessine.
Qui se dessine, un bel avenir qui se dessine pour chaque cuisine. Non, c'est très chouette. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis épatée par toute cette démarche. Je pense que tu auras les bravos et félicitations de tous ceux qui nous écoutent. On arrive bientôt, je pense, à la fin de l'épisode, sauf si tu avais d'autres... d'autres choses que tu voulais partager avec nous. Je pense qu'on a fait un petit peu
le tour, ouais.
Entre, voilà, ton joli parcours de réorientation, voilà, le fait que tu as réussi à faire tout ça, toutes les casquettes de chaque cuisine où tu t'es très autodidacte.
J'ai peut-être un message à réorientation. C'est justement, quand j'étais prof au lycée la dernière année, je me rappelle d'élèves qui venaient me voir, bah pareil, il y avait ce côté un peu sympathique à discuter et qui avaient une pression de fou à 18-19 ans, là, moi aussi mon choix c'est pas le bon, etc. J'ai envie de dire, mais tous, autant que vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez changer les choses, vous pouvez... Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de fausse, de mauvaise décision. Et tout choix, en fait, va être une expérience et il faut vraiment y aller, il faut te tenter et se mettre de limites et se dire je suis trop vieux pour faire ça. Ma mère a eu son CAPES en même temps que moi, j'ai eu mon concours de bibliothécaire, donc du coup elle est devenue prof titulaire à plus de 50 ans. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard pour se réorienter, il faut y croire et voilà, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas pour la vie. Les choses, elles sont vraies à un instant T.
Ouais. Voilà. Oui, et puis de suivre... Enfin, je te rejoins complètement parce que, voilà, je pense que dans nos parcours, c'est un peu comme ça. De suivre, voilà, son instinct et de dire si j'ai envie de faire telle chose. Voilà, même si, effectivement, toi, aujourd'hui, tu te dis, bon, bah, chaque cuisine, c'est telle démarche aujourd'hui. Peut-être que plus tard, comme tu disais, tu suis tes envies et tu vas où le vent aussi
c'est
te mène.
Et... On va se respecter avant tout. Ouais. Soi, déjà. Voilà.
Très bien. C'est un beau message, moi, je trouve, pour...
oui.
À partager. Génial. Je termine les épisodes d'Elle en Mayenne souvent par deux questions. La première question, c'est quel est ton endroit coup de cœur en Mayenne, un lieu qui reflète ta Mayenne à toi, que tu aurais envie de nous partager?
Alors, j'aime bien quand même tout le département, parce qu'on part souvent en rando ou en vélo, aussi bien VTT, tandem, etc. Mais l'endroit où je vais le plus souvent, de par aussi son côté localisation, c'est de faire la voie verte Laval-Coupeau à pied, parce que d'ici, c'est tout près, et ça me permet vraiment de couper, même en 2 heures. Donc, j'adore aller, voilà, cette petite voie verte, ce petit moment de calme en sortant du centre-ville de Laval pour aller jusqu'à Coupeau. J'avoue, c'est mon petit moment en ressources.
Oui, très bien. Je partage aussi ton avis. Ça marche. Et la deuxième question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Elle en Mayenne? Donc, une femme mayennaise, mais après, voilà, il n'y a aucun critère à part ça.
Ça marche. Alors, du coup, ce serait Lila Vidal. Parce que, donc, de base, l'histoire est assez drôle. Est-ce qu'on a un petit moment pour l'histoire
ou
pas?
Oui, on a tout le temps qu'on veut.
Parce qu'à la base, donc, c'est quelqu'un que je connaissais quand j'étais copine avec elle quand j'étais petite, parce que nos mamans étaient copines, puis on s'est perdu de vue pendant... plus de 20 ans. Et parce que justement, donc elle est bien mayonnaise, mais elle était partie vivre ailleurs. Et en fait, il n'y a pas longtemps, sur un brunch bien-être, justement, son copain lui a fait la surprise de réserver ici, puisqu'elle mangeait végétarien. Mais il ne savait savait pas qu'on se connaissait ni quoi. Et donc, on est tombés l'une en face de l'autre à se reconnaître quasiment après 20-25 ans de s'être pas vu. Et donc, larmes et compagnie devant tout le monde.
Ouais.
Mais vraiment le truc genre fou, quoi. Et puis, en fait, elle habite dans la rue. Et elle a créé son cabinet sophrologie et hypnose rue Bernard Lepel, donc
fou,
juste
ça.
À côté. Et surtout, bah, en fait, on a repris contact direct et c'est comme si on s'était jamais perdu de vue. On a évolué
génial.
Vraiment dans le même sens. Et au-delà de ça, professionnellement, donc j'ai même testé ce qu'elle propose et j'en vois déjà pas mal de gens la voir parce que c'est magique. Enfin, si vous êtes un peu perdu, si vous avez besoin de vous retrouver ou de passer un moment, même des fois ça peut être sur une préparation d'examen, quelque chose comme ça, mais vous avez vraiment besoin de souffler et de passer un moment pour vous, elle est incroyable. Donc vraiment, elle vient de revenir en Mayenne finalement et de s'installer et je pense qu'on va vraiment entendre parler d'elle. Donc,
bah, génial, eh ben, on va parler d'elle ici et puis si elle a envie de venir partager effectivement ses expériences de vie, c'est avec plaisir.
Ça marche.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Moi j'ai adoré parce que encore, j'apprends toujours plein de choses en discutant, donc c'est trop chouette. Merci pour ce bon moment en tout cas.
Ça marche. Merci aussi. Merci d'être venue jusque-là.
De rien. Merci à vous. Au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci!